EMCI TV vous présente À table avec Annabelle, votre podcast francophone chrétien 100% féminin. Prenez place à table avec Annabelle pour des discussions authentiques, fun et profondes, empreintes de la parole de Dieu.
Bonjour et bon lundi à vous tous. Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine dans À table avec Annabelle. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons commencer. Nous avons une invitée, Lauriane, qui est gynécologue, mais elle va nous parler de comment elle est entrée dans ce métier. Qu'est-ce qui l'a motivée? Parce que vous allez le voir, c'est beaucoup d'années d'études et il faut de la motivation et de la persévérance. Alors, elle va tout nous expliquer son parcours. Et avant qu'on puisse la rejoindre, je veux vous remercier toute la famille des partenaires. Encore une fois, un grand merci. C'est grâce à vous qu'on peut faire toutes ces choses. C'est grâce à vous qu'on peut faire toutes les émissions. Cette émission aussi, qu'on peut entendre des histoires comme l'histoire de Lauriane. Des histoires qui vont parler à des centaines, des milliers de femmes, je crois, encore aujourd'hui, avoir un impact là où on ne peut pas aller, là où on ne pourrait pas nous-mêmes se déplacer, ni vous, ni moi quelquefois. Et pourtant, grâce aux médias, grâce à tous les moyens techniques et technologiques aujourd'hui qui existent et qui ont un coût aussi, eh bien il faut le dire, eh bien nous pouvons rendre la bonne nouvelle de l'évangile dans tout, je dirais, dans tous ses aspects, que ce soit au niveau du salut, mais comment vivre sa vie chrétienne au quotidien, comment persévérer dans des études, comment savoir quel métier est-ce que je dois faire, toutes ces choses-là, eh bien tous ces messages, toutes ces réponses que Dieu veut donner, que Dieu veut transporter, c'est possible grâce à vous, à votre soutien mensuel. Alors je veux prendre le temps de vous dire merci, un grand merci à vous tous. Nous vous aimons, la famille des partenaires, et nous vous remercions pour votre fidélité, pour votre soutien. Alors je suis aussi aujourd'hui avec Aurélie et Nadège. Nadège a fait son grand retour. Bonjour Nadège.
Bonjour.
On se demandait, est-ce que tu nous as quitté, Nadège?
Non, vraiment. Non, je suis là. Merci de m'accueillir avec tant de joie.
Oui, Nadège est une femme très occupée, comme vous le savez, et elle est là cette semaine. On est heureuse. Vu que t'es là cette semaine, on te lâche pas cette semaine. Tu reviens mercredi et vendredi. En plus, vendredi, Nadège, tu vas pouvoir nous parler de ton dernier petit bébé. Ah oui, un dernier petit bébé, et tout ça pour te dire, aujourd'hui en plus on reçoit une gynécologue, ça tombe bien. Quelle transition terrible. Donc on va accueillir avec nous Lauriane. Bonjour Lauriane.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Je vais bien, je suis très heureuse d'être avec vous.
Ah ben nous aussi on est très heureuse. Alors pour la petite histoire, Lauriane, à cause de ma transition terrible, le dernier petit bébé de Nadège est un livre. Donc je sais pas si tu fais ce genre d'accouchement aussi, mais voilà,
ça
c'était le dernier.
Ça n'est pas encore arrivé.
T'es pas encore arrivé. Eh bien écoute, tu verras ce que Dieu a pour toi. Alors Lauriane, j'ai eu l'occasion de pouvoir parler un petit peu avec toi avant l'émission, et c'est Fanny qui était chargée de prod d'À table avec Annabelle, qui m'avait parlé de toi et de ton parcours, et on s'était dit en j'aimerais trop la recevoir un jour. Et voilà, ce jour est arrivé, Lauriane, parce que tu as un parcours qui est très inspirant et un beau parcours, je trouve, d'obéissance. Et tu vas nous expliquer tout ça. Mais aujourd'hui, donc, tu es gynécologue. Et en fait, on va peut-être, tu peux nous dire un peu d'où tu viens et où t'as grandi. Raconte-nous toute ta vie, Lauriane. Nous t'écoutons.
Alors, j'ai 35 ans. Je suis née en région parisienne, dans une famille chrétienne très engagée, avec deux parents formidables, et puis un grand frère, un petit frère. J'ai eu la chance de grandir dans un milieu, on va dire, où on a beaucoup parlé de Dieu, et je me souviens même pas de ma conversion. J'ai toujours entendu parler d'Afrique parce que ma mère a grandi en Afrique, au Congo-Brazzaville. Ses parents étaient pasteurs là-bas. Et elle y a vécu jusqu'à ses 18 ans. Donc, ça a un peu tout ce contexte d'entendre parler de pays, de l'étranger, de voyage, d'interculturalité, tout ça, ça m'a toujours passionnée, en tout cas. Et puis j'ai fait mes études de médecine, j'ai commencé à Paris et je les ai terminées en océan Indien, donc sur l'île de la Réunion principalement.
Ah ouais. Et donc t'as grandi dans une famille où la mission était un petit peu au cœur des discussions. Ça fait partie de ton bagage, un bon bagage d'ailleurs familial. Et tu me racontais que très jeune, t'as finalement, c'est aujourd'hui avec du recul, on peut dire que t'as senti l'appel de Dieu.
Complètement. C'était vraiment, il y avait ma grand-mère qui était là, la maman de mon papa, qui était catholique. À la maison, et puis ils ont voulu lui montrer un film qui s'appelle L'Auberge du sixième bonheur, un vieux film maintenant, si on regarde, on trouvait ça très lent, mais à l'époque, ça passait bien. Et ce film, il dure plus de 2 heures, et ça raconte l'histoire romancée, mais vraie, d'une missionnaire anglaise, Gladys Aylward, qui a eu un cœur qui s'est allumé pour la Chine, alors que personne pensait qu'elle était appelée par Dieu, et qui est partie par ses propres moyens, et qui a fait énormément de choses en Chine, et qui a sauvé des centaines d'enfants pendant la guerre entre la Chine et le Japon dans les années 1940, je pense. Mmh. Et moi, j'ai vu ça, ce film, j'avais environ 5 ans, je pense. Et quand j'ai vu ça, j'ai senti un appel. Je me suis dit, mais moi aussi, je serai missionnaire plus tard. Et j'ai toujours aimé la Chine. Ça a été mon premier amour à 5 ans.
Donc à 5 ans, tu t'es dit, est-ce que c'est resté au fur et à mesure du temps, parce que tu sais, à 5 ans, on passe un peu d'une idée à l'autre, etc. Mais est-ce que en ce qui te concerne, c'est quelque chose qui a duré plus qu'un instant, plus que la fin du générique du film?
Ouais, carrément. Et là, je remercie vraiment mes parents et je veux dire que c'est tellement le rôle des parents d'encourager les enfants dans leurs rêves quand il y a quelque chose qui est là et qui est déposé par Dieu. Parce qu'en fait, ils m'ont jamais dit « c'est n'importe quoi » ou « c'est qu'un film ». Ils auraient tellement pu banaliser ça en disant « c'est qu'un film ». Mais ils m'ont vraiment encouragée en disant « bah oui, bah si ça vient de Dieu, tu vas travailler à ça ». Je me souviens que j'aimais pas le riz quand j'étais petite et qu'ils me disaient « ah, mais si t'as à cœur l'Asie, il faut que t'aimes le riz ». Ça a marché, croyez-moi. Mais ouais, ça m'a suivi, je pense, toute ma vie. Et j'ai vécu un autre moment crucial quand j'avais, je pense, 12 ans, où j'étais à une conférence d'église et il y avait une missionnaire qui était venue parler aux jeunes et qui avait dit « il y en a dans cette salle, Dieu a mis un rêve dans vos cœurs et vous vous demandez si ça vient de vous et si ça vient de lui, mais Dieu vous dit que ça vient de lui ». Et là, je me suis dit « mais alors c'est vrai, je peux vraiment vivre une vie de foi, de mission, de passion avec Dieu et avec plein de peuples. Et, et un peu plus tard, quand j'étais au collège, juste avant le lycée, je me demandais quel lycée, quelle orientation j'allais faire. Mm-hmm. C'est exactement pareil au Canada ou ailleurs. Mais on commence un peu à s'orienter avant le baccalauréat. Et j'avais prié en disant, mais Seigneur, moi, tu sais que je veux te servir. Mais alors, quel métier il faudrait que j'aie? J'étais persuadée que je serais prof d'anglais parce que je me suis dit ça marchera partout et j'aimais beaucoup l'anglais. Et en fait, j'ai eu cette vision de maternité qui avait vraiment les valeurs de l'évangile, beaucoup de bienveillance, des accouchements dans la louange, des femmes qui sont soutenues quand elles en ont besoin. Et en fait, je me suis dit, bon, bah, je vais faire mes études pour m'orienter plutôt vers sage-femme. Et j'ai passé ma première année de médecine parce qu'à l'époque, c'était en commun en France, sage-femme et médecine. Et puis en fait, pendant cette année-là, j'ai senti que peut-être Dieu voulait que je fasse gynéco. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais tu sais, qui peut le plus, peut le moins. Si t'es gynéco, tu pourras faire plus de choses que si t'es sage-femme parce que tu aurais été formée un peu de manière plus poussée dans ce domaine. Et pour moi, ça a été comme une parole de Dieu et je me suis dit, bon, bah, c'est ça. En tout cas, je passe cette première année. Je rentre, c'était un concours, donc il y avait un certain nombre de places de limitées. Et je me suis dit, si j'ai médecine, je prends médecine. Si j'ai pas médecine et que j'ai sage-femme, je prends sage-femme. Si j'ai ni l'un ni l'autre, je redouble. Et j'ai eu médecine.
Ah ouais, déjà avoir sa première année de médecine, la première année, en soi, c'est déjà... C'est déjà c'est une grande réussite, non? Parce que la plupart du temps, on entend que la première année de médecine, elle est pas
plus complète de ce que les étudiants en médecine disent. Ouais.
Donc, je veux juste revenir quand même avec vous aussi, les filles. C'est que à 5 ans, il y a cette chose qui s'allume dans ton cœur, Lauriane, et le fait, comme t'as dit, que tes parents n'ont pas douté, mais au contraire ont encouragé. Et je crois que c'est quelque chose finalement qui arrive régulièrement dans la vie d'enfant, parce que t'as un cœur d'enfant qui est hyper disposé, et puis en fait c'est Dieu qui est en train de parler, en train de commencer à façonner l'enfant, mais on peut se dire bah ça vient de son imagination, c'est quelque chose que ça va lui passer, et de pas le prendre au sérieux. Et c'est vrai qu'en tant que parent, c'est important de prendre ces paroles là au sérieux, parce que ça va éviter que le rêve s'évanouisse et s'efface. Et quand les parents sont là pour nourrir ce rêve et le ramener, quand on discerne que c'est une bonne chose, en fait c'est sûr que ça va rester, en fait ça fait partie, ça va devenir quelque chose un peu du quotidien, comme tu disais cette anecdote, mais que je trouve très intéressante, avec le riz, parce que c'est comme t'as une vision, en fait c'est mais si tu veux aller en Asie il va falloir que tu manges du riz, mais ça veut dire c'est un peu entré dans le quotidien. Donc c'est pas forcément de faire des jeûnes, des prières de 40 jours, etc. C'est juste de pouvoir le faire vivre et de le rappeler régulièrement. Et quelquefois, peut-être en tant que parent, on peut être plus porté à le faire quand les enfants sont plus grands, et aussi quand des études sont enclenchées, parce que il y a quelque chose un peu plus concret, etc. Mais les études font aussi partie de l'appel de Dieu. Donc quand l'appel se manifeste avant le choix des études, etc., c'est de se dire il y a quelque chose et je veux l'encourager, et même si quelquefois ça peut sembler impossible en fait à réaliser, ou trop grand, ou mais comment est-ce qu'il va réussir. Et je pense que ça peut jouer aussi un rôle dans la scolarité de l'enfant, pour l'encourager. Si l'enfant a dit mais moi je un jour je serai quoi, un jour je serai pompier, et que là je parlais des résultats scolaires, mais un jour je serai pompier, et que l'enfant a peur des hauteurs par exemple, bon déjà il peut regarder l'émission d'Audrey Mac sur vaincre ses peurs, et c'est de dire non mais tu sais, quand tu vas être pompier, quand tu vas sauver les gens, il va falloir que tu montes sur des échelles, etc. Et en fait ça va aider l'enfant à se surpasser, oui à l'école, mais aussi dans certaines craintes et certaines limitations. Donc en tant que parent, c'est de prendre ça au sérieux.
Oui, et aussi tu vois que les parents ont encouragé, du coup elle a grandi avec ça. Et moi personnellement, tu vois, à 16 ans, sérieux, j'ai pas choisi mon orientation scolaire en fonction de ma foi, quoi. Tu vois, donc, mais c'est beau de voir ça, que tu peux arriver dans une saison de ta vie où tu veux faire la volonté de Dieu, que même dans des choses où on ne le voit pas forcément à un certain âge, tu puisses dire à Dieu, Seigneur, oriente-moi. Où est-ce que tu veux que, c'est quoi le choix des études que tu aimerais que je fasse? Et je pense que c'est une question que peut-être les jeunes qui nous regardent ne prennent pas le temps de poser à Dieu, mais Lauriane l'a fait. Et le chemin n'a pas été linéaire. Tu vois, elle avait à cœur sage-femme, mais en fait, finalement, une orientation vers la gynécologie. C'est aussi cette confiance en Dieu qui nous dirige dès notre plus jeune âge, et qui va nous porter, qui va nous conduire. Donc, j'aime bien ce côté-là, parce que sérieux, je me vois à 16 ans, je me dis, ah non, j'y étais pas, mais c'est un encouragement pour toutes les jeunes d'aujourd'hui qui nous écoutent, qui peuvent se dire, ah ben oui, moi j'ai peut-être 15 ans aujourd'hui, et Seigneur, montre-moi là où tu veux m'amener, montre-moi ce que tu veux que je fasse de ma vie, et le Seigneur va vous conduire. Même si le chemin n'est pas tout droit, linéaire, le Seigneur va vous conduire.
Moi, je trouve déjà extraordinaire de ressentir ce fardeau à 5 ans. C'est vraiment extraordinaire, parce que moi, c'était pas à cet âge-là, mais c'est vraiment extraordinaire. Mais je pense aussi que c'est Dieu qui place en nous aussi certains désirs. Tu peux sentir une passion pour quelque chose, tu penses que c'est toi-même, surtout pour nous, enfants de Dieu. Ça se passe même pour des non-chrétiens. Sentir un besoin, une passion pour quelque chose, et c'est vraiment ça le chemin que le Seigneur a tracé pour nous. Et moi, je trouve ça extraordinaire, et merci à Dieu, merci à vos parents. Merci vraiment à vos parents qui vous ont encouragé, parce que je crois que le rôle de parent, c'est aussi d'observer les enfants. Regardez la passion que les enfants développent pour certains sujets. Il faut bien étudier ça. Quand un enfant a déjà une passion pour quelque chose, faut observer, est-ce que c'est seulement un désir passager ou c'est vraiment quelque chose de consistant. Et surtout si nous sommes des parents chrétiens, prier le Seigneur et savoir est-ce que cette passion que tel enfant développe, c'est vraiment ça sa voie ou non. Parce que ça nous évite aussi la perte de temps, surtout dans les études. Tu veux faire des études parce que tu aimes ou c'est vraiment ça ta passion? Parce que si vous faites les études dans votre passion, vous gagnez beaucoup de temps. Mais si vous faites vos études parce que vous avez toujours désiré faire quelque chose et pourtant ce n'est pas dans le don que le Seigneur vous a donné, ça c'est vraiment une perte d'énergie et de temps. Surtout je pense que les études de médecine, ça prend beaucoup de temps, spécialisation. Ah, vous avez passé beaucoup de temps. Moi, je sais pas si j'aurais eu cette force. Mais je pense que pour nous les parents, et j'ai dit vraiment, j'ai dit encore merci à vos parents d'observer les enfants pour mieux les orienter. Parce que souvent aussi les enfants, on sait pas toujours, il y a une passion qui vient aujourd'hui, demain c'est une autre passion, le lendemain c'est autre chose. Mais lorsque nous avons des gens autour de nous qui nous observent, ils peuvent facilement nous orienter dans vraiment sur la voie du Seigneur.
Et Lauriane, du coup, comme Nadège le dit, médecine, c'est quand même beaucoup d'années d'études. Donc, c'était mieux de savoir dans quoi tu t'embarquais. On parle de combien d'années
Maintenant, c'est une année de plus, mais à l'époque, gynécologie obstétrique, c'était 11 ans.
C'est déjà énorme, hein, 11 ans.
C'est déjà énorme.
11 ans. Tu le savais avant de commencer?
Ouais, je le savais. Mais je dois dire que le fait d'avoir un but, ça m'a tellement aidé à rien lâcher, quoi. Je savais que je faisais ça pour participer à quelque chose de plus grand, pour être à la place où Dieu m'a appelée. Et je pense que c'est vraiment, je sais que Dieu, il révèle pas ses appels à tout le monde à 5 ans, à 6 ans ou très tôt dans l'enfance. Mais je pense que moi, j'en avais besoin pour pouvoir supporter ces longues années derrière, en tout cas.
Et pendant toutes ces années d'études, comment est-ce que tu vivais ta foi? Parce que tu étais aussi une jeune femme. Donc il y a les études, il y a le fait d'être une jeune femme, d'avoir tu as peut-être d'autres projets aussi dans ton cœur à ce moment-là, tu te poses des questions, la pression, enfin bref, tout ça. Comment est-ce que tu vis ta foi du coup pendant toutes ces années?
C'est quelque chose que j'ai priorisé. D'ailleurs, je me souviens préparer le concours de première année de médecine, de faire plus aucune sortie, mais de continuer d'aller à l'église. Et c'était ma sortie, c'était le truc sur lequel je voulais pas lâcher, quoi. C'était le moment qui était important et dans lequel je voulais investir. Et puis après, c'est vrai que c'était long. Je voyais mon petit frère qui lui a fait des études plus courtes et qui sortait avec ses copains faire un bowling au cinéma, et puis moi. J'étais là en train de réviser, de travailler. Je me rappelle des vacances de Noël où moi j'avais mes partiels juste à la rentrée. Et tu vois toute ta famille qui est rassemblée, qui font des jeux de société ou qui regardent un bon film. Et puis moi, je suis dans ma chambre à réviser pour le partiel que j'aurai une semaine plus tard. Je pense que j'étais déterminée. Et il y a quelque chose qui m'avait encouragée, c'est que j'avais entendu le témoignage d'une leader de louange qui avait volontairement décidé de mettre 10 ans de sa vie pour Dieu en disant je décide de pas avoir de petite amie, de pas chercher de mari pendant ces 10 ans. Je crois que c'était de ses 15 à 25 ans ou 20, 30 ans, je sais plus. Mais elle avait vraiment fait ce truc de dire pendant 10 ans, je te mets toi en premier. Et ça m'avait tellement touchée et je me suis dit, ouais, mais peut-être qu'elle aime Elle aime Dieu d'une façon si radicale, mais je voudrais avoir cette occasion de faire la même chose. Et j'ai dit à Dieu, mais moi, tu vois, tu donnes 10 ans de ma vie, je vais déjà faire 10 ans d'études. laisse tomber, quoi. Je peux pas faire ça. Et j'ai senti le Saint-Esprit qui me disait, mais donne-moi tes années d'études. Vivons-les ensemble. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a tenue aussi. J'ai vécu, je vivais mes partiels comme des temps de rencontre avec Dieu. Où je pouvais sentir sa présence, où je pouvais prier quand je connaissais pas la réponse et avoir hop une idée, un truc qui me rappelait. Et puis, c'était ouais, j'ai appris à aimer ces moments. Et puis tellement fou que au milieu de ma 5e année, je vais quand même à une conférence qui était organisée en Suisse. Et puis, ils avaient une école de disciples qui commençait, une école biblique, 2 mois après. Et je sens dans mon cœur que Dieu me dit, tu vas faire cette école.
Au milieu de ton parcours.
En plein milieu de mon parcours, en sachant que le concours de médecine pour l'internat, c'est à la fin de la 6e année. Là, je suis dans ma 5e, donc ça fait déjà 1 an et demi que je suis en train de préparer ce futur concours sur les 3 ans d'externat. Et je me dis, non, mais c'est pas possible. Si je m'arrête 6 mois pour faire ça, ça me rallonge d'une année. Et en même temps, je savais que c'était Dieu. Je suis rentrée, j'en ai parlé à ma mère, qui m'a dit, bah écoute, ok, mais si ça vient de Dieu, faut que ton père soit d'accord aussi. Mon père, c'est le sage de la famille. Et il a dit tout de suite, allez, si tu trouves les finances pour faire cette école, si le Seigneur ouvre les écluses du ciel pour ça, parce qu'on roulait clairement pas sur l'or, eh ben c'est parti, quoi. Moi, je t'encouragerai. Et en 2 mois, j'ai reçu les plusieurs milliers de francs suisses qu'il me fallait pour faire cette école, quoi.
Ouais, je trouve ça, ça tellement beau à différents niveaux, parce que t'es parti pour 11 ans d'études, et c'est hyper long, et de se dire, bah, je vais faire comme une pause, je vais rallonger ce temps-là pour faire une école biblique, pour répondre à l'appel de Dieu dans l'appel de Dieu, l'obéissance dans l'obéissance. Je me dis, waouh, c'est courageux, parce que en fait, dans nos pensées humaines, dans notre sagesse humaine, on pourrait dire, mais je me rallonge le parcours. Et tu vois, c'est ça que je trouve hyper intéressant dans ton parcours, c'est de voir comment Dieu lui-même a mélangé, mais de façon ordonnée, tout ce qui était, tout ce qui faisait partie de son plan. Et quelquefois, nous, on est très sur un couloir, on a une petite pensée, mais Dieu est au-delà. Dieu est capable de tout faire. Il est dans un parcours, un cursus de 10 ans, 11 ans d'années de médecine, il a réussi à intégrer un temps de formation biblique. Moi, je trouve ça assez extraordinaire, en fait. Et c'est sûr que, humainement, c'est complètement fou. Mais je pense, sans spoiler, je pense que tu n'as pas eu de regrets d'avoir pris cette décision.
Non, et surtout, déjà, dans ce que ça m'a apporté dans ma foi, dans ma consécration, ça m'a donné les ailes pour continuer à aller jusqu'au bout, c'est sûr. Mais en plus, j'ai fait des rencontres. Quand on vit avec d'autres jeunes autant de temps, on était une toute petite école en plus, donc y en a une qui est devenue ma belle-sœur, qui s'est mariée avec mon frère.
Enfin, c'était ma meilleure amie. En fait,
c'est des personnes avec qui j'ai vécu ça et m'ont soutenue pendant tout ce parcours aussi, quoi. Donc non, aucun regret.
Ouais, c'est extraordinaire, franchement. Et aussi, t'as continué de faire t'as fait quelques voyages missionnaires pendant ce temps-là. C'est là où t'es allée à Madagascar et à Mayotte, à différents endroits. Ouais.
En fait, déjà avant de faire, j'étais en première au lycée à 17 ans. L'été, j'ai fait un premier voyage en Chine avec Jeunesse en Mission. Et pour moi, ça a été juste merveilleux, quoi. J'avais peur de me dire, est-ce que ce pays que j'ai tellement aimé depuis que j'ai 5 ans, est-ce que ça va être aussi beau que ce que je pensais? Et oui, tout à fait. Je me suis sentie comme à la maison, j'ai tellement aimé. Et quelques années après, j'ai fait une école, une formation au ministère. Je faisais ça l'été. En fait, j'investissais mon temps libre, mes vacances, dans des choses qui allaient m'encourager à suivre cette course. Mais ils proposaient des stages derrière. Et comme moi, ils savaient que j'avais un cœur pour les nations, la mission, etc., ils voulaient m'envoyer chez un couple. Elle est médecin spécialisé en médecine tropicale. Et puis lui, il faisait le rôle de pasteur, d'implanteur d'église. Et ils m'ont proposé d'aller un mois en stage chez eux. Et je me souviens avoir prié et dire à Dieu, mais Seigneur, en fait, ça sert à rien que j'aille à Madagascar si j'aime pas ce pays plus que ça. Et moi, tu connais mon cœur, c'est la Chine, c'est l'Asie, c'est le Vietnam, c'est la Corée du Nord, des pays dont tu m'avais parlé. Mais j'irai pas à Madagascar tant que tu me donneras pas de l'amour pour ce pays. Et j'ai lutté avec Dieu comme ça pendant 3 mois, je crois, à peu près environ, jusqu'à ce qu'un jour, il me dise, mais Lauriane, est-ce que tu crois vraiment que j'aime plus la Chine que Madagascar? Et là, c'est comme si la muraille de Chine de mon cœur s'était effondrée. Et que l'amour que j'avais pour la Chine en particulier depuis que j'avais 5 ans se répandait sur les nations en général, quoi. Mmh. Et ça m'a interpellée parce que, mine de rien, à ce moment-là, moi, je voyais mon avenir tout tracé. Mmh. Je finissais mes études, je partais en Chine, voilà. Et là, je me suis dit, mais en fait, j'ai plus aucune idée de ce à quoi va ressembler ma vie. Mmh. Et j'ai vraiment senti que Dieu me disait, mais enjoy the journey, comme on dit en anglais, profite du voyage. Mmh. Juste apprends à vivre aussi au jour le jour, plutôt que de savoir les
marcher
choses
sur l'eau.
En avance à 5 ans, quoi.
Et pendant tes études, mais aussi une fois que tu as eu ton diplôme, comment est-ce que tu as réussi à concilier ta foi et aussi l'exercice de la médecine, particulièrement dans ton domaine? Est-ce que tu as eu besoin de t'affirmer par rapport à tes convictions?
Oui, on m'a demandé de faire des choses auxquelles moi j'avais pas envie de participer, qui correspondaient pas à mes valeurs. Et puis, en plus, on changeait de stage tous les 6 mois. Donc, tous les 6 mois, j'arrivais dans un nouvel endroit et puis je devais me repositionner. Et c'est pareil, c'était à chaque fois un nouveau challenge où je suis obligée de m'accrocher à Dieu, de prier, et puis de dire, alors cette fois, comment je vais dire, comment je vais l'annoncer? Et le pire, c'est qu'à chaque fois, c'était des stratégies différentes. Une fois, c'était mm-hmm. tu vas envoyer un mail quelques jours avant. Une fois, c'est tu vas dire au moment où tu seras confrontée. Une fois, tu vas prévenir tes collègues d'abord. Enfin, c'était la vie par la foi, quoi.
Est-ce que ça t'a desservi, le fait d'être chrétienne et de, enfin, pas d'affirmer forcément que t'étais chrétienne, mais en tout cas d'affirmer certaines convictions?
Je pense que il y a eu des personnes que ça a surpris, mais tout le monde a respecté mes choix. Et puis, on m'avait prédit, quand j'étais encore jeune étudiante en médecine, avant d'être interne vraiment, on m'avait dit, mais tu ne pourras pas refuser de faire certaines choses. Enfin, voilà, j'ai perdu mon écouteur.
Ça arrive.
Tu ne pourras pas refuser de faire certaines choses. Et moi, j'avais dit, mais moi, je sers un grand Dieu, il ouvrira des portes. Et j'ai pas peur de ça. Et en fait, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et j'ai tellement été acceptée quand ils ont vu comment je travaillais derrière que dans quasiment tous les hôpitaux où je suis passée, ils m'ont proposé un poste pour rester travailler derrière.
Rien que ça, c'est aussi un super témoignage, je trouve, parce que tu sais, quelquefois, t'es dans le milieu, hein, dans certains milieux, et en fait, tu te dis, si je m'affirme, je vais pas avoir de promotion, je vais pas peut-être même avoir de diplôme. On va, les portes vont se fermer pour moi. Et quand on est là, en train d'avancer après autant de travail, en plus autant de d'études, d'efforts, tu te dis que ça en vaut la peine, peut-être, Seigneur, là, c'est juste le temps d'avoir de la formation, comme ça, après on va me laisser tranquille. Mais en fait, avec ton témoignage, Lauriane, on se rend compte que Dieu est fidèle et que faut pas avoir peur. Et je pense que c'est un message aussi pour les jeunes dans la sagesse, parce que tu nous l'as dit, à chaque fois c'était différent, tu dépendais du Saint-Esprit pour savoir quoi faire, t'arrivais pas, ouais voilà moi là 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 là, et parce que aussi je pense qu'il y a un manque de sagesse, mais le fait de le faire avec sagesse, ça va pas nous fermer des portes, au contraire. Et puis on voit finalement t'as été remarqué pas pour ça, enfin en tout cas t'as pas été écarté pour ça, mais ce que les gens ont apprécié aussi, et c'est là où il faut fournir, hein, derrière, quand on dit qu'on a des convictions, c'est que t'étais au niveau de ton travail, au niveau de tes relations aussi, de ton témoignage, de ton comportement, de ton attitude, ça, je veux dire, c'est venu comme dire, ok, elle a des convictions, mais elle vit selon ses convictions, et au final ça crée quelque chose de bon. Donc de pas avoir peur d'affirmer ses convictions, mais aussi, et selon la sagesse du Saint-Esprit, mais d'avoir aussi derrière un bon témoignage, parce que sinon c'est ça, quelquefois on a l'impression que c'est parce qu'on s'est affirmé que les portes se sont fermées, mais en fait c'est notre attitude, c'est notre mauvais témoignage qui a fermé les portes et qui a fait que qu'on a pu être mal compris ou mal jugé, entre guillemets.
Et aussi,
beaucoup été encouragée sur le livre de Daniel. Que Daniel, c'est typiquement quelqu'un qui a refusé de faire certaines choses, de manger certaines choses. Et pourtant, mm-hmm. Il a été tellement aimé. Et puis, il y a ce verset qui parle de lui avec un esprit d'excellence. Et moi, c'est vraiment ce que je voulais et pour lequel je priais. C'était, OK, il y a des choses que je peux pas faire et je veux respecter les valeurs que j'ai. Mais Seigneur, donne-moi cet esprit, un esprit excellent. Donne-moi cet esprit d'excellence qui va faire que on s'en fiche que je fasse pas tout. Parce que ce que je le fais bien.
Une bonne prière.
Tu voulais dire, Aurélie ?
Non, en fait, c'est pour aller dans le même sens que ce que tu disais tout à l'heure. C'est juste que parfois, justement, on manque cette sagesse-là. Et on a peur des hommes. Et j'aime beaucoup ce que Lauriane a dit dans le sens que quand Dieu est avec toi quelque part, il te conduit jusqu'au bout. Et il ne faut jamais avoir peur de ça. Il y a des choses qui peuvent sembler fermées aujourd'hui, mais c'est ça en fait qui va te faire voir le miracle. C'est ça qui va te faire voir que, ah, mais Dieu l'a quand même fait. Mm-hmm. Et parfois, quand on est jeune, on a peur d'affronter ça. Mais il ne faut pas avoir peur d'affronter ça. Il ne faut pas avoir peur de dire, en fait, pour telle et telle raison, je ne peux pas faire ça. Tu vois, et ça ouvre plus des portes que ce que les gens pensent. Les gens pensent de prime abord que ça va me fermer une porte, mais quand on entend beaucoup d'histoires, on réalise que mais en fait c'est ça qui a ouvert la porte, c'est ça qui est, parce que tu as dit à ton patron que j'ai pas envie de mentir, c'est ça qui t'a crédibilisé aux yeux de ton patron. Pourtant c'est lui qui t'avait proposé de faire ça. Donc parfois on a cette peur là, mais il faut voir que quand Dieu est avec nous, ben ça va servir, comme il dit que même nos ennemis, il fallait disposer en notre faveur. Mm-hmm. Il faut vraiment faire confiance à Dieu dans ce sens-là aussi.
Et Lauriane, je veux revenir aussi sur un point que tu as partagé par rapport à ce témoignage que tu avais entendu de cette femme qui a dit « je te donne 10 ans de ma vie » et qui a dit « je veux pas de mari, je veux pas de fiancé, là, 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 là. » Toi, pendant tes 10 ans de médecine, est-ce que, et pendant tout ce parcours, est-ce que c'était une inquiétude ou un désir que tu avais par rapport au mariage? Comment tu te positionnais en fait par rapport à ça?
Je pense pendant la première partie de mes études jusqu'à mon concours, je crois que je cherchais pas vraiment parce que j'étais tellement dans mes bouquins que la question se posait pas. Et puis après, je me suis retrouvée interne, loin de ma famille, à faire des horaires de fou. Et là, c'est sûr qu'on se dit, ah, ce serait cool d'être à deux. ce serait beau. Et puis tu commences à voir, une fois que tu passes les 25 ans, tu commences à voir certaines de tes amies, des gens de ta famille se marier, et puis pas toi. Ma prière, c'était vraiment Seigneur, mais sois suffisant alors. Que tu sois suffisant pour que je vive pas dans l'attente de ça. Et que ça me ronge pas, ça me mine pas, et que j'avance. En fait, j'ai pris le parti de me dire, bah en fait moi j'avance sur cette course qui est tracée devant moi. Et puis j'ai vraiment mis ça sur l'autel. C'est-à-dire, bah, s'il y a quelqu'un que toi tu mets à mes côtés, ben bah, gloire à Dieu et merci. Mais si c'est pas le cas, et ben je l'accepte parce que je sais que tu vas le remplir d'autres relations qui vont me nourrir.
Et du coup,
comme toutes les jeunes filles, j'ai vécu aussi des déceptions. On croit que c'est la bonne personne, mais ce n'est pas la bonne personne. Et en fait, donc j'ai fini mes études. J'ai senti que je devais quand même travailler pour me faire un peu les armes avant de partir en mission comme ça. Donc j'ai continué, donc tout ça célibataire. Et puis ensuite j'ai organisé de partir 6 mois en République démocratique du Congo, vraiment dans une région très enclavée au centre, avec un gynécologue congolais chrétien qui a ouvert un petit hôpital en brousse. Donc l'idée c'était d'aller le rejoindre. Moi je voulais pouvoir justement vivre cette expérience avec un gynéco en plus qui va me former. Et là, c'était vraiment pas le moment où je voulais rencontrer quelqu'un, quoi. Je m'étais dit, ça y est, moi, je pars en mission. C'est pas maintenant que quelqu'un va me faire foirer. Depuis que j'ai 5 ans, j'attends ça. Et en fait, il s'avère que ce petit hôpital, il est soutenu par une petite ONG chrétienne. que j'ai contacté juste avant de partir pour avoir des renseignements. Mm-hmm. Et la personne qui a été mon contact, bah, aujourd'hui, c'est mon mari.
Ah, voilà, voilà.
Bah, tu fais bien les choses.
Exactement. Et tu sais, c'est comme je disais par rapport à ton parcours, c'est ce que j'aime parce que toi, t'as été juste obéissante. Et Dieu s'est occupé de tout, mais sur tous les niveaux. Et mais t'as quand même dit quelque chose d'important en début aussi d'émission, c'est que t'as toujours priorisé ta relation avec le Seigneur. Mmh. Et bah de là, ouais, coule tout le reste en fait. T'as la force pour faire tes études, t'es inspiré, t'es dirigé pour prendre telle ou telle direction. Et puis Dieu s'occupe du reste. T'es comme t'es prête à mettre ta vie sur l'autel, un mariage sur l'autel, bah écoute Seigneur, et à répondre à l'appel, à être obéissante et que Dieu s'est occupé de tout quoi. Il t'a amené ton mari parce qu'il est français ton mari.
Ouais, et c'est ça qui a été difficile même pour moi parce que jamais j'aurais imaginé me marier avec un Français qui vivait en France. C'est-à-dire que le Seigneur,
c'est tellement banal.
Il me l'a amené sur un plateau et moi je me disais mais attends, c'était pas ça le plan que je m'étais imaginé. Et il y a quand même des choses que j'ai dû lâcher et dire mais attends, mais là aussi je veux te faire confiance. Et j'ai senti que Dieu me disait mais je viens pas te mettre quelqu'un pour restreindre ton appel ni restreindre le sien, je viens vous mettre ensemble pour l'élargir. Et aujourd'hui je sais pas à quoi va ressembler, on sait pas. Là, j'ai repris une partie de mes études. Je suis encore en train de me former. Oui. Et je reste en sexologie. Mais on ne sait pas où est-ce qu'on ira. Et on ne sait pas comment, si finalement, on va vivre cette mission ici en France ou ailleurs. J'ai dû redéposer ça sur l'autel. Mmh. Et c'est quelque chose, n'empêche, que j'ai dû faire régulièrement parce que il y a eu des moments de ma vie où je pense que j'ai mis mon appel un peu au-dessus de Dieu, un peu comme une idole. Mmh, mmh, au lieu de travailler pour Dieu, je travaille pour mon appel. Oui, moi, j'ai été appelée quand j'avais 5 ans. Pas du tout. Dieu, il a changé déjà 15 000 fois mes plans et la manière dont moi, je l'avais imaginé.
Mmh, mais c'est très beau, en tout cas, de voir comment il a changé les plans, mais comment aussi tu as été flexible dans tout ça. Bon, après, on n'a pas les détails de toutes les luttes que tu as pu avoir et les discussions animées que tu as pu avoir avec le Seigneur. Non, moi, je veux ça comme ça. Mais on voit comment, en fait, Dieu est bon et que c'est un bon père, comment il prend soin de nous. Et je pense que ton histoire, c'est un encouragement à plusieurs niveaux, mais aussi, et particulièrement quand on prend un chemin qui est pas forcément facile et qui peut sembler long, mais quand on sait pourquoi on le fait, quand on a cet amour pour le Seigneur aussi qui nous porte, c'est bah tout est possible et que dans ce chemin-là, il y a des oasis, il y a des moments de repos, il y a des moments de rafraîchissement et je crois aussi que t'as en mettant encore une fois ta relation avec le Seigneur en premier, bah c'est comme ça que on peut passer à travers et quelquefois on a des moments dans notre vie, on se dit, ouh, la route va être longue, mais si on commence à juste travailler, bah, en fait, on va s'épuiser, on a besoin de se reposer dans le Seigneur. Et puis, tu sais, ça peut sembler, il y en a peut-être, ça a pu vous sembler fou d'entendre Lauriane dire ça, mais pourtant, c'est la parole de sagesse dont vous aviez besoin. Ma sortie, c'était d'aller à l'église. C'est-à-dire, ça peut manquer de fun, mais en fait, non, c'était exactement ce dont elle avait besoin pour pouvoir continuer et quelquefois on va se dire bah moi mon moment j'ai besoin de sortir avec mes amis, j'ai besoin de regarder un film, j'ai besoin d'un mais en fait ça va pas nous ressourcer. Peut-être qu'on va se reposer un instant mais ça va pas créer ce dont on a besoin, cette énergie dont on a besoin pour la suite. Alors c'est aussi d'être sage et d'être intelligent et de garder le Seigneur en priorité dans votre vie. Ça veut pas dire du coup aller forcément à toutes les réunions d'église, de faire partie de tous les départements, il y a un temps pour tout, mais de pas vous déconnecter puis de dire bah moi je reviendrai au Seigneur une fois que tout ça sera fini. Seigneur, t'es bon, t'es avec moi, parce que ça peut être de longues années et qui peuvent être compliquées. Et sans le bah aujourd'hui c'est aussi ton témoignage, Lauriane, c'est que sans le Seigneur, est-ce que tu le referais?
Sans le Seigneur, non. Je pense que c'est ce qui m'a tenue. Et finalement, même dans les moments difficiles à l'hôpital ou quoi, ce qui m'a même fait tenir, c'est de voir comment Dieu pouvait intervenir dans des situations désespérées et qu'il pouvait m'utiliser. C'est ces moments qui te nourrissent de se dire, mais en fait, je sais que je suis exactement à l'endroit où je dois être parce que je suis dans cette obéissance et que Dieu me bénit là où je suis. Donc non, je pense que j'aurais pas du tout fait ce parcours sans lui. J'aurais pas tenu.
Merci beaucoup, Lauriane. Je pense qu'il y aura matière à une deuxième émission quand tu vas pouvoir savoir comment Dieu vous oriente, toi et ton mari, pour la suite. Me dire à quoi ressemble la mission finalement dans cet épisode 2 de ta vie avec ton mari. En tout cas, nous, on a hâte de le savoir. Le Seigneur sait déjà toute chose, mais ça va être quelque chose de parfait pour toi et pour lui. Alors, un grand merci d'avoir partagé tout ça avec nous et comme je dis, que ça puisse vous encourager dans vos études, que ça puisse vous encourager aussi si vous êtes dans votre travail, si vous avez du mal à vous positionner et si vous voyez le temps passer, vous dites moi j'ai fait tellement de sacrifices, Seigneur, je comprends pas, regardez ce parcours de Lauriane, gardez vos yeux sur lui et puis faites-lui confiance. Tout ce que vous avez sacrifié pour lui, tout ce que vous avez mis sur l'autel, il n'y a rien de perdu, ce sont des offrandes que vous lui avez données et Dieu est bon. Il n'est pas là juste à nous regarder en train de souffrir. Il peut y avoir des années quelquefois qui peuvent sembler longues et on peut se dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et puis on regarde quelques temps en arrière avec un peu de recul, on se dit, mais Seigneur, merci parce que tu me préparais le meilleur. Alors que ça puisse vous encourager. Merci à vous les filles d'avoir été là. Merci. Et puis on va se retrouver mercredi. Ouais, merci Lauriane. On va se retrouver mercredi pour une prochaine émission d'À table avec Annabelle et on vous dit bye bye.
Bye.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI. Retrouvez toutes les émissions À table avec Annabelle sur emcitv.com.